C'est donc Josué qui termine sa vie et son service pour le peuple d'Israël et qui les convoque, qui convoque tout son peuple pour faire un discours d'adieu. Et dans ce discours, verset 13, il dit, je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix. Il a fait un choix qui a engagé sa maison de servir l'Éternel. Et puis en Rois chapitre 18, versets 20 et 21, Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Ils avaient la preuve flagrante que l'Éternel était le seul Dieu. Du moins, il était le seul Dieu vis-à-vis de Baal. Baal, c'était le Dieu du pays, amené par Jézabel, la femme d'Akab, qui était elle-même fille d'un prêtre éminent de Baal. Et les gens avaient servi Baal, ils avaient des centaines de prophètes de Baal, et Baal était incapable de faire tomber du feu sur un sacrifice qui lui était consacré, et ils ont passé toute la journée à plaider avec Baal d'allumer son sacrifice avec un feu du ciel. Élie, le seul prophète de l'Éternel sur le site, a prié à peu près 45 secondes, parce qu'on a le texte de sa prière, et l'Éternel a répondu avec un feu du ciel. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a reconnu l'évidence, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit alors maintenant, servez l'Éternel, puisque vous savez qui est le vrai Dieu. Il y a quelques années, j'ai lu un roman, bon, je lis parfois des romans, mais celui-là m'a particulièrement frappé. Le roman s'appelait L'arbre de Judas. On pense à Judas qui s'est pendu dans un arbre. Mais c'était justement l'histoire d'un jeune médecin idéaliste, plein de bonne volonté, plein de bonne motivation, voulant faire du bien autour de lui, qui rencontre une charmante jeune fille et qui fait des projets de mariage. Ils étaient à 6 mois du mariage et ils voulaient rester purs, tous les deux, et elle surtout voulait rester pure, mais dans un moment de faiblesse, ils ont fait un acte qu'il n'aurait pas fallu faire. Mais comme ils allaient se marier, chacun disait, c'est pas très grave. Bon, un mauvais choix. Quelques jours après, le médecin découvre qu'il a de la tuberculose et son médecin traitant lui recommande une croisière. Il dit à sa fiancée, « Je reviens dans un an, on se marie. » Il est parti plein de bonnes intentions de rester fidèle à sa promesse. Mais voici que dans le bateau, il rencontre une famille richissime. Les parents et puis leur fille gâtée et caractérielle, mais séduisante, et qui voulait à tout prix devenir ami de ce jeune médecin, qui repoussait ses avances pendant longtemps, mais finalement elle a eu raison de lui, elle a séduit et le voilà tombé encore dans le péché. Et désormais il n'avait plus question de sa fiancée qu'il avait dans son pays, et il épouse la jeune femme riche, et le père qui est très riche l'installe dans un travail de luxe, un travail de puissance, de pouvoir. Il semble tout avoir. Il dit quand même, regarde, je ne suis pas si mal tombé que ça. Moi, humble étudiant en médecine, regardez, j'ai un empire maintenant pharmaceutique à ma disposition. Mon beau-père a des poches sans fond. sa femme qui était caractérielle tombe dans la folie. Alors il est mis dans une institution. Et pour ne pas trop s'ennuyer, il trouve une petite maîtresse par là. Toujours en pensant, c'est pas bien, mais je vais me racheter. Après le décès de sa femme, il décide de retrouver peut-être la fiancée qu'il avait connue 30 ans plus tôt. Arrivant dans ce village, il découvre qu'elle est décédée. Mais elle a épousé un pasteur et elle a eu une fille, 30 ans de moins que lui. Mais cette fraîcheur, cet idéalisme le séduit. Il dit peut-être que je pourrais me racheter une conduite en étant gentil avec elle. Et peu à peu, il essaie de lui faire comprendre qu'il aimerait l'épouser. Et puis elle, ne connaissant pas l'histoire, parce qu'il a assez bien gardé de raconter sa faillite morale avec celle qui était sa mère, qui est décédée. Mais elle dit, mais moi je vais être missionnaire en Afrique, et toi tu viendras avec moi, tu es médecin réputé, tu vas soigner les gens, on va faire une équipe de tonnerre. Et il se dit, ah oui, peut-être après ma vie de lâcheté, tous mes mauvais choix, c'est peut-être la possibilité quand même d'être utile, parce qu'il se sentait écrasé de culpabilité de tout ce qu'il avait fait. Et elle devait partir au pays quelques semaines avant lui, et puis il avait racheté entre-temps une magnifique maison sur un lac en Suisse, et des gens riches qui étaient là, et puis une riche dame qui essayait de le séduire et qui finalement est arrivée, encore une fois, dans un moment de faiblesse. Et elle l'a amené avec elle et ils se sont épousés. Et le week-end d'après, il apprend que cette jeune fille qui devait partir en Afrique n'a pas pu partir à cause des événements politiques et du danger. Et il se trouve coincé. Et elle revient vers lui pour dire, on peut se marier, on ne va pas partir quand même, je reste avec toi. Et c'est sa nouvelle femme qui accueille la jeune femme et qui raconte toute cette histoire sordide de cet homme qui avait l'air tellement bien, qui avait l'air tellement sincère, qui avait l'air tellement généreux. Mais la suite de ses mauvais choix, en lui disant, mademoiselle, il vient de m'épouser moi. La jeune femme s'en va totalement désarçonnée et saute dans le lac et se noie. Alors la nouvelle femme de ce monsieur se lève le lendemain matin et elle cherche son mari, il n'est pas là, le lit est vide. Et elle regarde dehors et elle le voit pendu à l'arbre de Judas dans le jardin. Ça m'a fait un effet. Parce qu'à travers cette histoire alambiquée mais triste, on voit un homme qui, jeune, ému de bons sentiments, d'une certaine noblesse d'âme, d'un certain idéalisme, mais une série de mauvais choix à des moments clés dans sa vie, ont gâché sa vie complètement. Ce n'est pas le mauvais choix chaque jour, c'est les mauvais choix quand on arrive devant un Y. Il a cédé à ses appétits, il a cédé à son égoïsme, il a cédé à lui-même plutôt que de céder à la vérité, à la noblesse, à ses engagements, à ses promesses. Il a cédé à son égoïsme. Et cet égoïsme a fini par gâcher sa vie et gâcher la vie de plusieurs personnes autour de lui. Bon, c'était un roman, mais ça se produit dans la vie réelle. Il y a des choix tragiques. Dans la parole de Dieu, Dieu nous donne le récit parce que Dieu est direct avec nous. À l'heure du choix, quel est le choix que nous faisons? Regardons en Ésaïe chapitre 14. C'était sans doute le premier choix tragique qui a jamais été accompli par un être. Le choix tragique de Lucifer. Dans Ésaïe 14, on a le récit de ce choix, verset 12, où Ésaïe, inspiré par l'Esprit, parlant du roi de Tyr, mais aussi de Lucifer, il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » C'est le mot, c'est la traduction du mot Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Si quelqu'un avait devant lui un avenir brillant, c'était bien Lucifer. C'était un ange. Dieu lui avait donné une beauté particulière, des pouvoirs tout à fait extraordinaire, une place de choix. Il était un chérubin protecteur dans la présence de Dieu. Un ange ne pouvait sans doute pas être plus près de Dieu lui-même que Lucifer. Un ange créé par la main de Dieu pour être au service de Dieu. Il avait tout pour lui. Mais il a fait un choix. Parce que Dieu a même donné aux anges un libre arbitre. Ils ont pu faire des choix moraux. Il a fait un choix moral ou immoral. Dieu, ce qu'il a, lui, que je n'ai pas, il a l'adoration. Je veux qu'on m'adore. Il faut qu'on m'adore. La seule chose qui me manque, c'est l'adoration. Alors, je vais être semblable à Dieu. Moi aussi, je veux qu'on m'adore. Choix funeste, horrible. Ce choix moral, cette décision de vouloir être comme Dieu, ce qui était tout à fait impossible, c'est un choix de folie. Satan a perdu tout. Et aujourd'hui, il vit encore dans la haine et dans l'amertume. C'est le sort qu'il a choisi pour lui-même. Et il sera pour toujours dans les temps de feu et de soufre. Un choix qui affecte son destin éternel. Et combien de gens ont souffert de ce choix de Lucifer et de tout le programme qu'il met en place sur la terre pour séduire les hommes. Pensons à Caïn, et là on est tout au début de l'histoire humaine. Caïn qui, il y avait sans doute des frères et des sœurs, puisque Caïn a épousé une femme, donc il a dû épouser une de ses sœurs, mais il y avait Adam, Ève, Caïn et Abel. La Bible parle de ces quatre-là. Une petite famille, la première famille humaine. Et la première famille humaine savait comment adorer l'Éternel. Dieu l'avait montré à leurs parents, à ses garçons, comment adorer l'Éternel, faire un holocauste avec un animal, verser le sang, brûler l'animal sur l'autel. Caïn et Abel avaient la même connaissance, la même instruction, la même obligation. Caïn avait un choix moral, de dire, moi, je ne vais pas offrir un sacrifice d'animal. J'ai un beau jardin potager, j'ai des fruits et des légumes magnifiques, je vais en offrir les meilleurs à l'Éternel, c'est beau, c'est esthétique, c'est magnifique, c'est mon travail, c'est sur mon front que j'offre à Dieu, et on peut dire, ben oui, c'est pourquoi pas, ou seulement, il savait que ce n'est pas ce que Dieu demandait. Les fruits et les légumes ne peuvent pas effacer nos péchés, c'est le sang d'un substitut qui peut le faire. Et alors, c'est une conversation avec l'Éternel quand Dieu refuse le sacrifice de Caïn et le lui fait savoir. Caïn est fâché, il est en colère. Et Dieu, dans sa grande bonté, vient lui parler. Mais pourquoi tu te mets en colère? Mais fais ce qu'on te demande. Offre un sacrifice, je l'agréerai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'obtempérer, au lieu d'obéir, au lieu de dire Seigneur, oui, c'est vrai que je savais depuis toujours. Il continue à nourrir la haine et l'amertume contre son frère, contre Dieu finalement. Il attend le moment favorable et met à exécution son plan funeste. Il tue Abel de sang-froid dans un champ. Et quand Dieu dit « Où est ton frère ?», il a la prétention de dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Comme s'il ne savait pas où il était. Quel choix horrible. Caïn, sa vie est gâchée. Il n'aura jamais une communion avec Dieu. Au contraire, il va partir loin de la présence de l'Éternel. Il va bâtir une brillante civilisation. Mais sans Dieu. On ne veut pas de Dieu dans la famille de Caïn. Il a fait un choix qui a affecté sa postérité, son caractère, son avenir. Je pense à Samson, en Juges 14. Vous connaissez peut-être l'histoire. Si quelqu'un avait tout pour lui, c'était bien Samson. Déjà que Dieu, par l'ange de l'Éternel, est descendu parler deux fois à la mère de Samson pour lui annoncer la naissance de cet enfant, que Dieu allait faire venir un homme qui lui appartienne, qui va être le juge en Israël, qui va délivrer Israël des Philistins. Et puis Dieu lui donne une force surhumaine. Les bodybuilders et tous les champions de force et les gens qui soulèvent des poids, ils n'ont rien, c'est pas la même catégorie avec Samson. Samson pouvait soulever des dizaines de tonnes. Comme il a pris la porte d'une ville antique et l'a arrachée avec les poteaux et l'a transportée en haut d'une colline et qu'il a jeté là, jamais aucun homme vivant à part lui pourrait le faire. Dieu lui a donné une force extraordinaire. Les moyens d'accomplir sa mission, il les avait. Mais aussi fort qu'il était humainement, aussi faible il était dans son caractère. Et là, en Juge chapitre 14, Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins, c'est le peuple ennemi. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Alors son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Et voilà un autre choix tragique. C'est vrai que le Seigneur s'est servi quand même de ses mauvais choix. Et Dieu peut se servir de nos mauvais choix. Mais à nos dépens. À nos dépens. Il a choisi une femme. Vous connaissez la suite. Il n'a jamais pu vraiment avoir cette femme parce qu'il y a toute une histoire autour du mariage. Il est allé de choix tragique en choix tragique. Et deux chapitres plus tard, au chapitre 16, verset 30, le voilà. Il est aveugle, capturé par les Philistins, abandonné de l'Éternel. Et puis il se trouve dans leur amphithéâtre, entouré de 3000 Philistins, qui rigole en le voyant ainsi paralysé. Il les avait assez fait souffrir. Et là, il demande à l'Éternel, « Permets-moi de me venger de mes yeux auprès de ces Philistins. » Et Dieu lui donne une force pour son ultime acte. Il pousse les piliers, renverse l'amphithéâtre bâti sur ses deux piliers et tue 3000 Égyptiens, Philistins en même temps que lui-même. Mais quelle fin! Il a tué plus d'ennemis dans sa mort que dans sa vie. Mais quel tragique destin, parti d'un mauvais choix. Samson n'a jamais pensé à l'intérêt de l'Éternel, il pensait surtout à son intérêt. Dieu s'est servi quand même de cet homme, parce que Dieu avait un plan et un programme. Mais Samson n'a pas bénéficié de la protection et de la bénédiction de Dieu à cause de ses choix. Ce caractère moral faible, ce « je », ce « moi », ça me plaît, ça, je veux ça, je ne veux pas l'autre, je ne veux pas obéir, je ne veux faire qu'à ma tête. Voilà Samson, un héros qui aurait pu être tellement magnifique et la vie était tellement tragique. Je pense à Saül, le roi Saül, quand vous pensez au roi Saül, le premier roi d'Israël, il avait tout aussi pour lui. Fils de fermier, Dieu lui a donné un cœur de roi. En un tour de main, le Seigneur a changé son caractère. Et Saül avait été tête et épaule au-dessus de tous les autres hommes. Comme on dirait aujourd'hui, il avait vraiment une tête de roi. Il était plus grand que les autres, il était magnifique. Et quand le peuple voyait Saül, il disait, « Oh, ça c'est un roi! Vive le roi! Vive le roi !» Le peuple s'unissait autour de lui. Il a eu plusieurs victoires. Le peuple sentait fier de son nouveau roi. Mais Saül a fait aussi des choix tragiques. Il a désobéi à l'Éternel par trois fois. Des désobéissances flagrantes. Mais pour Saül, ce n'était pas très important. Sa désobéissance, ce n'était pas très grave. Et toujours, il trouvait une excuse. Il n'a jamais pu dire à cet homme, j'ai péché, sauf pour dire j'ai péché, mais il ne s'est jamais repenti comme le faisait David. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, j'ai péché, ok, j'ai péché. Comme parfois nous on... Ah oui, c'est bon, ça va, tu m'as assez parlé, j'ai péché, d'accord. T'es content? C'est pas une repentance. Il dit, j'ai péché, mais honore-moi en présence des anciens. Préserve ma réputation. Je veux bien avouer mes péchés, mais surtout que ça ne se sache pas. Je ne veux pas perdre la face. Un choix moral. Horrible. Il couvre son péché, il ne l'admet pas. Et à partir de ce moment-là, et Dieu, c'est un passage tragique, Dieu décide de retirer son esprit de Saül et permet à un mauvais esprit de venir agiter le cœur de Saül. Ce qui, en termes psychiatriques, le rend schizophrène. Je ne parle pas de l'état psychiatrique, je parle d'une activité démoniaque là, sur Saül, que parfois il était très bien et parfois il devenait complètement malade, meurtrier, méchant, et quand il revenait à lui-même, il le regrettait, mais il était incapable de changer puisqu'il était, il ne voulait pas se repentir, et il s'est enfoncé de plus en plus dans les manies, dans la paranoïa. Et puis il a poursuivi le jeune David pendant 10 ou 15 ans pour le tuer, et il a mis son royaume dans un état lamentable. Tout le pays a souffert à cause de son choix vis-à-vis de son péché. Au lieu de simplement le reconnaître et s'en repentir, il ne voulait pas. Il ne voulait pas perdre la face. Il a fini par tout perdre. Il aurait tellement voulu, comme tous les rois de l'époque, que ses descendants s'assoient sur le trône. Ça aurait été possible. Mais à cause de son péché, Dieu lui a arraché le royaume et l'a donné à David par la suite. Des choix tragique. Nous pensons à Judas Iscariote. Lui aussi, le Seigneur lui a fait confiance pour les finances du groupe. C'est lui qui était le trésorier des disciples et de Jésus. Il avait l'argent. Et la Bible dit qu'il piquait dans la caisse, comme on dit aujourd'hui. Il prenait de l'argent pour ses propres dépenses, sans demander à Jésus, sans demander à ses collègues. C'était un voleur, et Jésus n'a jamais relevé et lui a fait confiance. Enfin, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Mais cet homme, pour quelques sous de plus, sachant que les autorités religieuses voulaient attraper Jésus, est allé lui-même leur proposer de trahir Jésus pour une certaine somme. Ah, ça faisait les affaires des Sadducéens, des pharisiens, d'avoir un des intimes de Jésus qui savait parfaitement où Jésus se trouvait en toute occasion, de les amener vers lui, un traître. Dès qu'il reçoit cet argent, l'argent du sang, trop tard, sa conscience, son cœur dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que mon maître est innocent. Je sais qui c'est. J'ai livré le sang innocent pour de misérables pièces d'argent. Il est rentré là, il les a jetés aux pieds des gens qui les lui avaient donnés et il est parti se pendre. Plein de remords, mais encore une fois, pas de repentance. Amertume, tristesse, mort. Chacun de ces personnages, pour sa part, a des moments particuliers de leur vie, placés devant un choix. Ont fait un choix tragique. Et ce choix tragique a affecté le restant de leur vie. Mes amis, nous, quand on pense au choix des gens et aux conséquences de ces choix tragiques, on aurait presque envie que le Seigneur ait fait des robots. Hein. Avec des robots, le Seigneur n'aurait jamais eu de problème. Il aurait pu les programmer. En même temps, si vous rencontrez un jeune couple qui n'a pas encore d'enfant, et vous dites, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse une lobotomie pour votre nouvel enfant et qu'on lui enlève sa capacité de faire des choix, comme ça il ne vous posera jamais de problème. On pourra même le programmer pour vous dire plusieurs fois par jour qu'il vous aime. Voilà. Il vous obéira, il ne pourra prendre aucun choix, faire aucun choix, car il serait incapable de raisonner, mais un peu comme un bon chien, il vous sera soumis et il ne vous posera jamais de problème. Aucun parent digne de ce nom ne voudrait un tel enfant. Et Dieu est comme nous. Malgré toute la tristesse, Dieu renonce à nous enlever le libre arbitre. Mais nous sommes responsables. et nous portons les conséquences de nos actes. Puis il y a des choix héroïques. Des choix héroïques. Je veux relever quelques choix dans la vie de David. Quand David est loin par l'Éternel, par la main de Samuel, parce que Samuel a vu tous les grands frères de David passer devant lui, ils avaient tous une tête de roi, ils avaient tous l'air magnifique. Et le Seigneur a dit, non, je choisis le petit dernier, David, parce qu'il connaissait le cœur de ce jeune homme. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David, l'Éternel était avec lui. La clé pour faire des bons choix déjà, c'est ma chérie. Je lui réponds après, si jamais personne ne répond. L'Éternel est avec lui. C'est-à-dire, Dieu a dirigé le cœur de David. Dieu a touché le cœur de David. Et nous avons ce même privilège. Si nous sommes à Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Nous pouvons faire des choix tragiques. Mais nous avons quelqu'un que si nous l'écoutons, qui nous aidera à faire les bons choix. David et Goliath. Il a fait un choix héroïque, il a pris un risque, mais pour Dieu, pour l'honneur de Dieu. Saül, le vaillant guerrier, avait peur pour ce jeune homme. Il a dit, mais est-ce que tu as vu la taille du géant? Est-ce que tu as vu l'expérience de Goliath? Mais au moins, mets mon armure. Mais il ne pouvait même pas bouger avec cette armure de Saül. Il a pris sa fronde et ses cinq pierres, et avec le nom de l'Éternel est allé abattre le géant. Parce qu'il voyait Dieu comme étant beaucoup plus grand que Goliath. Il se disait, comment cet homme ose-t-il blasphémer le Dieu du ciel que je connais, que je chante, que j'adore? Mais il n'est pas possible que Goliath continue à vivre. Il faut absolument qu'il meure parce qu'il a blasphémé mon Dieu. Et si le Seigneur veut se servir de moi, je suis à sa disposition. Un choix absolument héroïque, mais pas un choix téméraire. C'était un choix raisonnable, basé sur ce qu'il savait de Dieu. Et parfois, des gens nous trouvent, oh bien non, mais tu prends des risques. Mais si nous connaissons Dieu et nous savons que c'est sa volonté, il n'y a pas de risque. Le seul risque serait de ne pas obéir à Dieu, de ne pas y aller quand Dieu nous appelle. Et puis, David et Saül. Le choix héroïque de David, Saül le poursuit, Saül veut l'assassiner, Saül et toute son armée viennent poursuivre David jusque dans les coins les plus déserts. Et à deux reprises, David a la possibilité de tuer Saül dans son sommeil, tranquillement, peut-être épargner des années de détresse pour son peuple. On peut comprendre, et les combattants de David l'encourager dans ce sens, mais tue-le, tu vois, si tu ne le tues pas, il finira par te tuer. Seulement, Dieu a dit à David, tu seras le prochain roi. Il était impossible que David meure avant d'être roi, puisque Dieu avait promis la royauté. À vue humaine, c'était la chose à faire, mais David aussi avait une compréhension de Dieu. Dieu a oint cet homme pour être roi. Il sera roi tant que Dieu veut qu'il soit roi. Si Dieu ne veut plus qu'il soit roi, Dieu s'en occupera. Ce n'est pas à moi de le faire. Un traitement de son ennemi, son pire ennemi, son ennemi mortel, parce qu'il voyait le rôle de Dieu dans la vie, et dans sa vie, et dans celle de Saül. Et sa compréhension de Dieu a fondé un choix héroïque de laisser la vie à Saül. Et le peuple a été sensible à la miséricorde et à la piété de David. Ce qui fait que quand David est devenu roi à la fin, le peuple était vraiment très soudé autour de lui. Ils ont admiré cet homme parce qu'ils voyaient sa piété et sa marche avec Dieu. C'est toute une série de choix héroïques. Et puis David devant Nathan, ce que Saül n'a jamais pu faire, n'a jamais voulu faire, David l'a fait. Devant un péché terrible impliquant Bathsheba, le meurtre de son mari, la naissance de l'enfant né de cette relation illégitime. Et quand Nathan vient lui dire, cet homme criminel dont je viens de te parler par une parabole, cet homme c'est toi. C'est toi qui as péché. David alors, il fond. Il s'humilie profondément. il se repent vraiment. Il va jusqu'au fond de son cœur. Il le regarde, il confesse à Dieu. Il voit la racine du mal dans son âme. Il demande au Seigneur de le purifier. Il demande au Seigneur de lui redonner dans la joie de son salut. Il dit au Seigneur, tu peux me pardonner et à cause du pardon que j'expérimenterai, je pourrai moi-même enseigner des pécheurs et les amener à toi. Je pourrai évangéliser parce que toi, tu m'as pardonné et je serai un monument de ta grâce et je pourrai aussi en évangéliser d'autres. Il a vraiment cru au pardon de Dieu. Vous savez, parfois, les chrétiens, on pêche, on se repent vraiment, Dieu nous pardonne vraiment, mais on se dit, mais après tout ce que j'ai fait, je ne peux plus servir Dieu. Je ne peux plus être utile. J'ai fauté, je suis disqualifié, je ne peux plus être utile à Dieu. Et nous tournons autour de notre échec. Et nous n'acceptons jamais vraiment le pardon de Dieu. Quand on accepte le pardon de Dieu, on se relève et on continue. On continue. Satan est très content quand nous nous morfondons sur nous-mêmes et que nous tournons autour de notre échec passé. Parce que tant qu'on tourne autour de nous-mêmes, on ne tourne pas autour du Christ. Il y a assez d'échecs dans notre vie pour qu'on ne soit pas obligé de tourner autour. Le Seigneur nous a délivrés pour qu'on puisse le servir. Et c'était le choix héroïque de David. Je pense à Jésus-Christ. Jésus a fait des choix héroïques aussi. Ah oui, oui. Vous dites, oui, mais ça c'est facile, Jésus était Dieu, il n'a jamais pu pécher, il n'aurait pas péché s'il avait... Il n'aurait pas pu pécher, il est Dieu. Oui, mais. Il a été soumis à la sollicitation au mal. C'est vrai que dans le caractère du Christ, il n'y avait rien qui disait, ah oui, j'en ai envie, je sois... Non. Nous, oui, on a ça. Quand certaines tentations se présentent à nous, on a quelque chose qui répond. Quelque chose de coupable, quelque chose de faible, quelque chose de mauvais. Et alors, pas besoin de faire beaucoup de tentations pour qu'on tombe. Mais le Seigneur, Satan connaissait Jésus depuis qu'il avait été créé. En tant que Lucifer, en tant qu'ange, protecteur dans la présence de Dieu. Il connaissait Dieu le Fils. Il savait que Jésus était Dieu. Et croyez-moi, il a mis tous ses artifices à solliciter Jésus par les tentations les plus fines, les plus vraisemblables, les plus, enfin, propres à essayer de toucher le cœur du Fils de Dieu. Il a été réellement sollicité à faire le mal. Il a connu des sollicitations que vous et moi ne connaîtrons jamais parce qu'il est tellement au-dessus de nous moralement. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a fait le choix héroïque de citer la parole de Dieu. Chaque fois que Satan venait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est bien qu'il ait fait ça, vous savez pourquoi? Parce que s'il avait dit, je suis le Fils de Dieu, je ne peux pas pécher, tu dégages, il aurait pu dire ça. Pourquoi il a cité la parole de Dieu? Parce qu'il était entièrement soumis à son Père, il se nourrissait de cette parole. Mais aussi pour nous, nous avons la même parole qu'avait Jésus, les mêmes mots, les mêmes vérités. Et comme il a cité, il a pris notre épée et il a combattu avec notre épée, nous pouvons utiliser la même épée pour combattre Satan et faire des choix héroïques aussi. Il est écrit, non, je ne tomberai pas parce que la Bible me dit non. Jésus a fait des choix héroïques, je pense à son choix en tant que mineur. Vous savez, les fabulations les plus folles circulent au sujet de... Tout le monde se pose la question, est-ce que Jésus était entre 12 ans et 30 ans? Alors, ils l'envoient au Tibet, où il a fait des pèlerinages, il est allé dans les ashrams, il est allé voir la sagesse de l'Orient pour arrondir un peu son instruction, pour devenir un maître universel. Non, la Bible est très claire, il est resté à la maison. Il a été soumis à Marie et Joseph pendant 18 ans, une vie cachée. C'est le Fils de Dieu, c'est le Créateur du monde. Perdre, nous on dirait perdre, 18 ans à vivre une vie normale, une vie de mineur, puis de majeur, puis de jeune travailleur. Alors que c'est le Fils de Dieu. Et nous nous plaignons quand on n'a pas un succès immédiat. Jésus a vécu 33 ans sur la terre, 3 ans de ministère, 30 ans de vie normale. Ça doit nous montrer qu'il n'y a rien de mauvais à la vie normale. Quand on est jeune et qu'on est soumis à ses parents, on dit « Ouais, j'ai envie dans ma liberté !» Jésus, le Fils de Dieu, l'a fait. Un choix héroïque et un exemple pour nous. Parfois, on est dans une situation « Oh, je voudrais tellement faire pour le Seigneur !» Laissez-moi faire, Seigneur, libère-moi de ce travail, de mes parents, de ces contraintes financières, et tu verras comment je vais te servir. Le Seigneur, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Que tu me serves à ta manière, je veux que tu apprennes à m'obéir. Je veux que tu apprennes à être soumis, y compris aux autorités dans ta vie. C'est l'exemple que Jésus nous laisse par son choix. Il leur était soumis. Il avait les priorités en place. Jésus suivait le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est quoi pour Jésus? C'est d'abord l'épreuve, la croix, puis la gloire, dans cet ordre. Dans son épreuve, en Luc chapitre 4, il a été éprouvé physiquement par le jeûne, psychiquement par la solitude dans un désert terrible et spirituellement. L'esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. On peut penser que le diable devait se frotter les mains. J'ai le Fils de Dieu tout seul, moi et lui, et je vais le... Il a faim. Il a terriblement faim. Tellement faim que, humainement parlant, s'il ne mangeait pas, il était tout près de la mort. Satan le pousse. Mais assouvis ton désir de manger, c'est un désir légitime. Mange! Satan dit, tu es le Fils de Dieu, il faut que ça se sache. Il faut que tu fasses quelque chose de spectaculaire. Comme ça, les gens viendront autour de toi. Tu pourras les enseigner. Tu pourras accomplir ta mission. Saute donc du haut du temple. Oh, mais Jésus, tu es le roi du monde. Tu devrais pouvoir régner sur la planète. Regarde, c'est moi qui règne en ce moment. C'est mon programme. Tu n'as qu'à te prosterner et m'adorer. Et c'est toi qui régneras. Est-ce que c'est dans le programme de Dieu que Jésus mange du pain? Bien sûr. Est-ce que c'est dans le programme de Dieu que Jésus soit élevé? Bien sûr. Est-ce que c'est dans le programme de Dieu que Jésus règne sur le monde? Bien sûr. Tout ça, c'est dans le programme de Dieu. Pour Jésus. Mais pas à ce moment-là et pas dans ces conditions-là. Et Jésus a repoussé le pouvoir. Il a repoussé l'autorité. Il a repoussé la gloire. Il a même repoussé la nourriture. Parce qu'il a dit, ça, je les aurai quand mon Père me les donnera. C'est lui qui me donnera, ce n'est pas Satan. Je ne vais pas les prendre, même si je sais que j'en hériterai. Ce n'est pas à moi de les prendre, c'est au Père de me les donner quand il estime que c'est le moment. Ça, c'était au début de son ministère. Et puis ce ministère, prier la nuit, voyager le jour, enseigner, faire des miracles, un travail incroyable, une fatigue extrême, et finir par l'épreuve de la croix. La douleur indicible, cette nuit de torture, le matin et l'après-midi, de sur la croix, suspendu, à en mourir. Et puis, la séparation de son Père sur la croix. Ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et subir l'enfer pour nous. Il fallait aller jusque-là. Quel choix héroïque d'aller jusqu'au bout du programme. Et après ça, c'est la bonne partie qui commence. La résurrection. L'ascension. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il prépare une place. Il reviendra pour juger, pour régner. Jésus a su attendre l'heure de Dieu. Il est passé par l'heure de la souffrance. Et il viendra à l'heure de la gloire. Jamais personne n'a été plus digne de régner sur le monde que Jésus. Jamais personne n'est plus digne de juger les hommes que Jésus. Parce qu'il n'a fait que des choix héroïques, mais il les a fait en tant que Dieu devenu homme. On ne doit jamais oublier l'humanité de Jésus. Et donc, quand il est dans le jardin de Gethsémané, on connaît cette prière. Il avait vu sans doute d'autres crucifixions, il savait ce qu'il attendait. Il savait aussi que le peuple juif, du moins les dirigeants juifs, lui vouaient une haine tout à fait particulière. Barabbas, c'était un révolutionnaire, un homme très dangereux. Mais les dirigeants juifs disaient, non mais tu peux le relâcher, c'est pas très grave ce qu'il a fait à côté de Jésus. C'est à Jésus qu'on en veut. Et moi, je pense bien qu'ils ont donné aux soldats romains les instructions. Si vous voulez vous taper, lui taper dessus, allez-y. Hein? Plus vous irez, plus ça nous plaira. Allez-y, faites-le subir le pire. Les soldats n'ont pas ménagé leurs efforts pour taper sur le Fils de Dieu, pour le faire souffrir. Alors, devant ceux qui savaient attendre, que cette coupe passe loin de moi, non point toutefois, ce que je veux et ce que tu veux. L'heure du choix, le jardin de Gethsémané. Le jardin de Gethsémané, le choix le plus héroïque de tous les temps a été fait par Jésus. Et qui en bénéficie aujourd'hui? Lui, mais aussi nous. Nous sommes ici parce qu'il a fait ce choix. Il a fait ce choix volontairement. Il n'a pas dit, il faut que j'y aille, bon, il faut que j'y aille. Ce n'est pas dans ce sens-là. En tant qu'être humain, il a exprimé ce désir tout à fait humain. Si je pouvais échapper à cette torture, je préférerais. Il faut être masochiste pour dire, j'aime la torture, j'aime la douleur. Mais ça, c'est malade, ce n'est pas normal. Jésus n'était pas malade. Il a dit, si je pouvais éviter cette torture, si je pouvais éviter de rompre la communion avec mon Père, je préférerais. Mais que ta volonté soit. Un choix basé sur les principes, un choix basé sur son caractère, un choix basé sur son obéissance à la volonté de Dieu. Mes amis ont dit, oui, mais ça, c'est Jésus est héroïque déjà par lui-même. Il a fait des choix héroïques. Mais moi, je suis banal. Je suis rien. Moi, je suis personne. Que je fasse des choix bons ou mauvais, ça ne concerne que moi. Pensez donc. Nos choix concernent plus de gens que nous ne penserions. Nos vies affectent plus de gens que nous ne penserions. Il y a des gens qui seraient tout à fait étonnés de savoir qu'ils sont pris en modèle par d'autres gens. Parce qu'ils pensent que personne ne les regarde et que personne ne les estime. Nos choix nous affectent et affectent les autres. C'est pour ça qu'à l'heure du choix, Dieu nous a donné le libre arbitre. On peut faire des choix qui lui plaisent et qui le glorifient. Et le plus grand choix, c'est de le recevoir comme sauveur. Ce choix-là détermine notre destin éternel. On va en enfer ou l'on va au ciel parce qu'on a pris une position par rapport au sacrifice du Christ. Si on décide de dire oui, je crois que Christ est mort pour moi, je suis un pécheur et je mérite la punition éternelle. Mais Christ a payé pour moi et je décide de placer en lui ma confiance entière, de ne compter que sur lui, Christ est je te déclare juste et je te pardonne. Je te pardonne parce que tu as fait confiance au sacrifice de Jésus-Christ. Mais on peut faire le choix inverse et beaucoup de gens le font. Non, je préfère essayer d'arriver au ciel par moi-même. Je suis bien dans ma religion, quelques efforts de plus et je pense que j'y arriverai. Choix tragique. Personne n'arrivera au ciel par sa religion. Personne n'arrivera au paradis par ses bonnes œuvres. Jamais dans un million d'années, on n'y arrivera. Seul le sacrifice du Christ peut laver le péché. Et ce choix nous appartient.